Bonjour Guillaume.
Bonjour aux fans de Radio Super Pouvoir que je retrouve à nouveau, hein. Vous allez m'entendre assez souvent maintenant. Bonjour Jean.
Bonjour Guillaume, bonjour JC.
On se retrouve pour une nouvelle émission, Bibliopotine, c'est bien ça, Jean?
Oui.
Donc qu'est-ce qu'on va raconter dans cette nouvelle émission sur Principe Actif?
Alors on va partir du nom, Bibliopotine. Potine, c'est un petit pot de terre cuite, c'est aussi un genre de terrine. Alors donc on va faire notre petite cuisine, c'est normal, à 12h30. Et puis vous raconter nos coups de cœur, parler de sujets qui nous préoccupent en tant que responsable d'établissement, etc. Et ça va être bien, je crois.
Oui, car Jean l'a un petit peu précisé, il est le responsable de la médiathèque de Verneuil-d'Avre-sur-Iton et je suis le responsable de la médiathèque de Breteuil-sur-Iton. On se retrouve entre chefs, c'est marrant.
Entre responsables, c'est déjà pas mal.
Oui, moi, j'utilise des mots un peu plus familiers. Bon, vous en ferez ce que vous voulez. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Jean ?
Alors, on va se présenter, on va présenter notre médiathèque. On a choisi, Guillaume a choisi, et j'en suis très content, un livre de David Le Breton qui s'appelle « La fin de la conversation » avec un point d'interrogation. Sous-titre « La parole dans une société spectrale ». C'est un livre paru aux éditions Métaillées, collection Traversée, un court livre de 120 pages, mais qui dit beaucoup de choses. Et c'est un livre, pourquoi je suis content? Parce que à Verneuil-d'Avre-Iton, on a un rendez-vous philo et il fait partie des livres qu'on a choisis pour discuter dans ces rendez-vous philo.
Oui, donc ça, ce sera les deux premières parties d'émission. Ensuite, on vous présentera quelques coups de cœur et on finira par l'annonce des événements de nos deux médiathèques. Est-ce que tu veux commencer, Jean ?
Oui, alors je vais me présenter, Jean Colombani, je suis à Verneuil-sur-Avre depuis 2 ans et demi maintenant. Avant je travaillais dans le réseau des médiathèques de la ville de Paris, donc le département de l'Eure c'est un peu nouveau pour moi, je prends encore mes marques et je suis responsable de cette très belle médiathèque à Verneuil-sur-Avre qui est un monument classé historique et on a une section jeunesse, une section adulte, on fait pas mal d'animations et on veut que ça continue comme ça.
Jean, quand on vient d'un réseau aussi fourni que les bibliothèques parisiennes, quelles sont les joies de se retrouver à Verneuil-sur-Avre? Quelles sont les particularités d'un réseau sud du département de l'Eure qui sont un atout?
Alors, je vais commencer par quelque chose en lien avec notre sujet qu'on va évoquer tout à l'heure. Ce que je remarque, c'est que je tutoie pas mal de lecteurs et c'est quelque chose que j'apprécie. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est plus fort, j'ai l'impression, dans une commune à taille plus humaine comme Verneuil-d'Avre-Iton. Et voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit.
Une proximité avec le lecteur.
Ah oui, oui, oui.
Très bien. Guillaume, mais qui es-tu donc ?
Je suis Guillaume, je peux vous donner mon nom de famille parce qu'on est maintenant familier, hein, chers auditeurs de Principe Actif.
Ils peuvent te tutoyer aussi, du
oui,
coup, les auditeurs.
Oui, ils peuvent me tutoyer maintenant,
ah,
oui.
Super.
Donc, par où commencer? On va commencer avec ce que vous connaissez. Je présente Radio Super Pouvoir sur Principe Actif deux mardis dans le mois à 12h30. Et je suis responsable de la médiathèque de Breteuil-sur-Iton depuis bientôt 2 ans. Nous sommes dans un bâtiment beaucoup plus récent que celui de Jean, étant donné qu'il a été construit en 2011. Bâtiment très moderne qui est apprécié de nos usagers, étant donné la luminosité du lieu. Ça nous est souvent...
Il y a toute une partie vitrée, hein.
Oui,
c'est chouette ça.
Ah oui, en été, c'est magnifique. Hein. On a beaucoup de soleil, on peut lire sur la terrasse. Oui, n'oubliez pas de nous demander, vous pouvez lire sur la terrasse. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce livre ? Pour une raison assez simple, c'est qu'il m'a été conseillé par l'un de nos lecteurs, qui est un lecteur commun à nos deux médiathèques. Peut-être se reconnaîtra-t-il. En tout cas, quand il passera, on lui en parlera. Et pour l'instant, on va dire que c'est à peu près tout. Je pense que les grosses annonces viendront à la fin, comme on l'a dit.
Ouais. Petit indice à propos de notre lecteur. Il a l'habitude de dire « Je suis un consommateur, pas un collectionneur ». Voilà, c'est un petit message.
Oui, c'est pas faux.
Arrivons donc dans le vif du sujet avec le livre sur lequel vous allez converser.
Oui, le livre de David Le Breton. Donc, que dire ? On va commencer par les bases. Il s'agit d'un essai de 120 pages, plutôt agréable à lire. Ça se lit très facilement. Ça a un côté assez sérieux, étant donné qu'il y a quand même un certain nombre de références qui sont données à l'intérieur pour pouvoir vous y retrouver quand David Le Breton cite des livres ou des articles de ses confrères sur le sujet. Et ça traite, pour résumer au maximum, de la place de la conversation dans notre société française d'aujourd'hui. Et de l'influence, on va dire, un petit peu, enfin même beaucoup délétère, des smartphones et des écrans, et de leur effet très négatif sur la conversation entre individus, le développement de l'individu, particulièrement des plus jeunes, mais pas que, faut faire attention. Comme le montre Michel Desmurger dans ses livres, le crétin digital, et faites-les lire, les effets très néfastes des écrans ne touchent pas que les ados. Ça touche aussi les adultes et de plus en plus d'adultes.
La fin de la conversation, selon David Le Breton, il y a un point d'interrogation à la fin de la conversation. Qu'est-ce qu'il entend par conversation ? En fait, définition déjà un petit peu ce qu'on entend par conversation. Est-ce que finalement, quand je vais chercher ma baguette chez le boulanger, je suis déjà en conversation ? Ou faut-il que j'aborde des thématiques un peu plus profondes ? Ou faut-il qu'il y ait un échange ? Enfin, comment ça marche finalement ? Qu'est-ce que la conversation ?
Disons qu'il fait un gros distinguo entre la conversation, la communication et le bavardage. La communication, comment il définit ça ? Ce serait plus lié aux méthodes de communication, on va dire, modernes, les échanges de mails, de SMS, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas forcément créer un véritable lien social et où nous ne sommes pas en présence de notre interlocuteur directement. Et nous sommes sur un type de discussion, on va dire, beaucoup plus terne. C'est un échange d'informations très basique où on n'est pas là vraiment pour apprendre réellement quelque chose, construire du lien avec une personne ou un groupe de personnes, mais sur quelque chose de plus abstrait, disons, qui est aussi à l'opposé du bavardage, qui serait, selon Le Breton, dire des discussions inutiles, pour vous faire simple, les discussions de piliers de comptoir, ou discuter de la pluie et du beau temps sans plus d'intérêt que ça, ce serait à peu près ça. Jean ?
Oui, alors pour compléter ce que tu dis, Guillaume, à l'opposé de la communication, il y a la conversation. Alors, sans faire de jugement de valeur, en fait, on part de la situation. C'est-à-dire que quand on converse avec quelqu'un, eh ben, il est présent devant nous et il y a un visage devant nous. On peut observer ses réactions et cette présence physique. Eh ben, on y est sensible et on a une responsabilité en face de la face à notre interlocuteur, c'est d'être attentif à lui, de ne pas le blesser, d'ajuster notre posture, nos mots à ses réactions. Donc il y a cette distance cette proximité plutôt, pardon, qui fait qu'on est engagé dans quelque chose dont on va peut-être sortir différent tous les deux. Voilà. Et dans la communication, ben, s'il y a une distance, et ben, si la personne n'est pas là...
Oui, je peux citer David Le Breton, page 47, justement, sur la communication. « La communication tant à dévorer le quotidien, à absorber toute l'attention, elle applique l'absence du visage, la virtualité, la distance, la décorporation, l'efficacité, la rapidité, l'utilité, une attention flottante. Oui, la question de l'attention, c'est aussi quelque chose d'important. Est-ce qu'on ressort d'une communication vraiment en ayant retenu ce qu'on nous dit ? Pensez peut-être à des discussions que vous avez pu avoir et à peine 15 secondes après, la personne semble avoir complètement oublié ce que vous lui avez dit parce qu'elle ne porte pas plus d'intérêt que ça au sujet. Ou est-ce que vous lui dites, tout simplement ?
J'ai retrouvé une autre citation. Il parle d'un face-à-face avec le monde qui prend un visage. Donc, il parle d'une éthique du visage. Il dit que sans visage, il n'y a pas de conversation possible. Alors, j'irai pas aussi loin, parce que ça me fait beaucoup de peine pour Gilbert Montagnier, qui voit pas de visage et qui, pourtant, doit être une personne passionnante à écouter. Moi, je l'ai déjà entendu parler. J'aimerais bien converser avec lui, justement. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a une éthique de la conversation qui s'impose à nous, ou pas. C'est-à-dire qu'un visage, ça peut être aussi un masque. Je pense à une pièce de Shakespeare, Othello ou Iago, jaloux d'Othello, converse avec Othello, mais le manipule, en fait. Donc, une conversation n'est pas sans risque, en fait.
Il y a une notion d'implication quand même dans ce que vous dites autour de la conversation, c'est-à-dire que il y a vraiment cette notion d'implication dans le moment qui se passe.
Oui, c'est ce qu'on fait, par exemple, en ce moment. Un des problèmes qu'il pointe, c'est justement les technologies numériques, ce qui n'est pas faux, on va dire, matériellement parlant. Un mail, il peut traîner pendant plusieurs jours avant qu'on lui réponde, voire on ne peut jamais répondre si on l'oublie, si on ne reçoit pas de relance.
T'es en train de me viser ou pas, Guillaume ?
En quelque sorte, je te regarde, oui, monsieur qui oublie de répondre au mail, hein. Je m'en souviens, hein. Je m'en souviendrai. Voilà, donc JC est coupable, notez-le. Oui, mais c'est aussi le problème sur les réseaux sociaux, par exemple, où une réponse peut être complètement ignorée, on passe à côté du sujet qui est abordé par la personne. Enfin, toute cette distance qui est induite par les outils numériques, elle peut tendre à créer des problèmes, des incompréhensions, et comme il le dit... à certains degrés de violence et d'agressivité au niveau verbal et qui peut après se retrouver dans la vie de tous les jours. Donc, on parle de comportements asociaux.
Ce qui manque peut-être justement à cette communication écrite, c'est toute la subtilité du ton employé à un moment. Ça a dû vous arriver plusieurs fois de relire un SMS ou un mail en se disant, en fonction du ton que je mets, du coup de l'intention, finalement ça prend un autre sens. Ce message en fait, avec le ton en fait, aurait été beaucoup plus clair, quoi. Ce qui crée des quiproquos régulièrement sur les communications courtes de messages.
Alors après, je serais pas aussi catégorique parce qu'on a cette espèce de aussi de. Je pense que l'empathie, elle peut quand même exister via une communication par mail. C'est simplement plus difficile. Donc effectivement, mais après l'imagination, c'est aussi c'est ce qui a fait. Que moi, quand les blogs sont apparus, moi j'étais, je suis entré dedans. Enfin, c'était extraordinaire. Les premières années de la blogosphère, j'ai noué des amitiés grâce à ça, quoi, et des amitiés vraiment profondes. Donc il y a quand même l'esprit humain qui est capable de s'adapter. Mais moi, je dirais que la difficulté, c'est qu'en fait, c'est que l'écran permet le multitâche, c'est-à-dire que on peut faire plein de choses en même temps, on peut répondre à plein de conversations en même temps, et on subit un flux d'informations en fait à force de s'engager dans plein de directions différentes. C'est ça le problème en fait. Et du coup, si on veut discuter avec plein de monde en même temps, forcément, on donne moins d'attention. Que lorsqu'il y a une conversation où là on est engagé comme en ce moment, c'est vrai ce que disait Guillaume, on est engagé là, on vit un moment dont on va se souvenir, quoi.
Alors justement, David Le Breton, quand il propose son essai qui s'appelle « La fin de la conversation, point d'interrogation », il pose une question qui est « Est-ce que nous allons vers la fin de ce mode d'échange ?» Votre regard un petit peu, vous, sur cette fameuse question, sans peut-être spoiler la chute, j'en sais rien, mais en tout cas dans la réflexion, Jean.
Il y a un truc que je voulais ajouter. En fait, la fin de la conversation... Point d'interrogation, c'est quelque chose qui... C'est une question qui est dans l'air depuis des décennies, finalement. Je voudrais parler d'un auteur qui est cité par Le Breton, qui s'appelle James Graham Ballard, qui, en 1974, écrivait un roman qui s'intitule Crash, un roman qui a été adapté par David Cronenberg dans la fin des années 80. Et je lis juste une phrase pour vous mettre dans l'ambiance. Il écrit dans sa préface à l'édition française, voyeurisme, dégoût de soi, puérilité de nos rêves et de nos aspirations, ces maladies de la psyché sont toutes contenues dans le cadavre le plus considérable de l'époque, celui de la vie affective. Donc, le reste est à l'avenant. Et voilà, l'incommunicabilité des êtres, c'est un thème des années 60 dans le cinéma italien. Il y a des films extraordinaires. Le grand embouteillage de Comencini, la corruption de Bolognini. Enfin, c'est des trucs extraordinaires. Et je cite ces films à dessin parce que j'ai travaillé dans une bibliothèque qui s'appelait la Bibliothèque Italie. Et c'est grâce à cette bibliothèque qui avait un fonds italien que j'ai découvert plein de films. Voilà. Et j'avais envie de partager ça maintenant.
Ça touche un petit peu à sa conclusion. Effectivement, devenir un technophobe enragé, c'est totalement ridicule aujourd'hui. Comment ne serait-ce que travailler aujourd'hui sans la technologie ? Il faut être réaliste et il faut voir les conditions matérielles dans lesquelles on se trouve. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est ce que pointe aussi Michel Desmurger dans ses livres, c'est la question du degré. Passer son temps, effectivement, derrière des écrans à faire des activités inutiles comme swiper sur Instagram ou sur TikTok, ce dont je peux être coupable parfois, mais vraiment passer ses journées et surtout son temps libre à faire ça, effectivement, ça peut créer des dégâts, et scientifiquement, c'est reconnu que ça crée des problèmes et que ça engendre des comportements asociaux. Enfin, être validé en permanence dans ses choix par un algorithme, vraiment être enfermé dans un mode, c'est-à-dire de consommation de la culture, oui, ça pose problème. Après, il parle de la conversation aujourd'hui comme d'un nouveau moyen de résistance. On pourrait être d'accord ou pas avec lui, mais... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Oui, Jean ?
Oui, j'abonde dans ton sens en citant Le Breton. Ce ne sont pas les technologies de la communication en tant que telles qui sont contestables, même si elles impriment leur marque sur l'échange, mais leur surinvestissement social, la part écrasante qu'elles prennent dans les relations courantes. Et en lisant cela, j'ai pensé à Guy Debord, La Société du Spectacle. Alors, le livre de Le Breton, ça pourrait être une déclinaison du concept de Guy Debord. On pourrait appeler ça La Société du Spectral. C'est vrai, il y a un concept de Guy Debord qui est l'aliénation. Pour Debord, le spectacle désigne le stade contemporain du fétichisme de la marchandise. Et c'est vrai que, l'immatériel qui englobe notre quotidien, c'est une marchandise. Et ce qui est un peu effrayant, c'est de se dire qu'en fait, quand on converse sur les réseaux sociaux, quand on fétichise l'autre, on fétichise une marchandise, puisque nous-mêmes, quand on est dans les réseaux sociaux, on est un ensemble de données marchandisables, etc. Donc, on se contemple, on parle de marchandise à marchandise, quelque part, peut-être.
Oui, il en parle à la page 66 quand il traite du smartphone comme instrument de l'hyper-individualisation. Je ne vais pas tout vous lire, mais il prend une anecdote sur un lieu touristique. Et tout ce qu'il a vu à ce moment-là, c'est pas des personnes qui admiraient les chutes, parce que c'était devant des chutes, mais des personnes qui avaient des perches à selfie, qui tournaient le dos au lieu et qui se prenaient en photo, on va dire, aux autres, sur leur réseau, sur leur page Instagram et à leur famille, regardez, j'y suis. Et finalement, c'est ça, c'est la question de la marchandisation, en quelque sorte, de l'individu. On devient une marchandise sur les réseaux sociaux. C'est regardez ce que je fais, comment je suis, qui je suis. Et plus on a plus ce lien, cette proximité avec une personne, un lieu, il est plus dans ce qu'il raconte, le Breton, sur un individu qui est uniquement dans son petit cocon et qui ne cherche uniquement qu'à s'auto-valoriser pour se valoriser auprès des autres, ce qui paraît paradoxal.
C'est se recréer, c'est façonner sa réalité, en fait, à travers, tu l'évoquais à l'instant, les réseaux sociaux, en tout cas les communications de masse, c'est presque bricoler ou arranger sa réalité.
Oui, c'est exactement ça.
On finirait presque par y croire.
Oui, on se croirait dans un épisode de Black Mirror. J'ai plus l'épisode en tête, j'y sais, tu vas peut-être pouvoir m'aider, celui... c'était pas une appli de rencontre il y a quelques années où c'était un épisode où il devait se gagner des points sur un réseau social de photos pour justement gagner leurs moyens de subsistance. Alors, je sais plus du tout le titre de l'épisode en tête. Alors, je crois que c'est sur la saison 3.
Je ne t'aiderai pas, ça c'est certain. Bon. Mais on voit bien ce fameux parallèle qui est effectivement à l'opposé de ce qu'on appelle la conversation et justement la question posée par David Le Breton, la fin de la conversation, point d'interrogation.
Et alors du coup, en lisant ce livre, je me suis dit, et en bibliothèque et en médiathèque, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est un lieu de conversation, la médiathèque? Et j'ai envie de dire que oui. Et c'est pour ça que c'est en début d'émission, je disais, je tutoie mes lecteurs et c'est bien quoi en fait. Pourquoi les médiathèques auraient-elles un rôle à jouer pour défendre l'art de la conversation? Parce qu'on est un lieu de la gratuité, en fait. C'est un des rares lieux où tout un chacun peut venir s'installer, librement consulter les documents, nous demander des renseignements. Et ces lieux ont tendance à disparaître parce que je sais que les facteurs jouaient un rôle important, un rôle social important, et passer voir sur leur tournée les habitants, ils passaient peut-être prendre un café, discuter le bout de gras, etc. Ça aussi c'est une conversation, mine de rien c'est important. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Poste fait payer ce service, faut pas l'oublier, ça c'est voilà. Et nous on ne fait pas payer ça, voilà.
Est-ce que finalement, se poser la question de la fin de la conversation, comme vous l'êtes posé en lisant tous deux cet essai de David Le Breton, est-ce que finalement se poser les questions, c'est trouver des solutions pour, dans son champ d'action, pouvoir la remettre à l'honneur finalement, cette conversation? Est-ce que se poser la question de l'intérêt de la conversation permet, alors dans son lieu professionnel, mais pourquoi pas dans ses activités annexes, remettre ce qu'on appellerait la bonne conversation? Est-ce qu'en tout cas, vous, ça vous a éclairé au moins dans votre champ professionnel?
Disons que moi, combiné avec les livres de Demurger, ça m'a un peu conforté dans ce que je pensais déjà. C'est effectivement, il y a des problèmes avec le smartphone. De toute façon, ça, c'est une évidence. Les comportements asociaux qui se créent de plus en plus, il en parle aussi sur le fait qu'on a beaucoup... de nos jours, des personnes qui semblent tout prendre, personnellement. Ce qui est un problème, mais il y a quand même une lueur d'espoir, on va dire, c'est qu'effectivement, dans les médiathèques, on a encore la chance de pouvoir discuter avec un certain nombre de lecteurs sans avoir cet outil qui puisse parasiter justement la conversation lorsqu'on nous demande des conseils. Par exemple, ma responsable de Rayon Jeunesse qui est assise à côté de moi et qui ne participe pas aujourd'hui, Christelle. Bonjour Christelle. Grâce à elle, on a quand même un certain nombre de lecteurs jeunesse qui sont devenus un public fidèle. Eh bien parce qu'elle discute beaucoup des nouveaux albums qui sont acquis par la médiathèque. Elle propose des animations, des cafés, enfin non pas des cafés, c'est autre chose, ça va pas marcher, mais des paniers à histoire qui permettent justement de discuter avec les plus jeunes et avec leurs parents, de bien les orienter, et puis simplement de parler. Alors ça peut paraître étrange, de temps en temps on a des usagers qui se confient un petit peu à nous, mais je dirais que c'est, comme ils le pointent, c'est assez sain. C'est pas sain d'aller converser, par exemple, avec ChatGPT, comme c'est fait aujourd'hui. Parce qu'on le voit, ça. Bon, il en parle un petit peu, mais je pense que son livre est trop récent pour vraiment faire une analyse très pointue et pertinente sur le sujet. Mais si vous aimez bien traîner sur Internet, vous avez dû les voir, les vidéos ou les articles un petit peu divers et variés sur différentes sources, où on voit des gens, enfin, et même des dépressifs aller converser avec ChatGPT. Enfin, c'est totalement ridicule. Un algorithme ne pourra pas vous aider à régler vos problèmes. Ça, oubliez. C'est une machine. C'est-à-dire qu'on parle d'intelligence artificielle, mais vous pouvez enlever intelligence. Ce qu'il trouve, il le trouve via les moteurs de recherche. C'est juste qu'il est plus rapide que vous.
Je pourrais peut-être nuancer. Disons que le problème, en fait, avec un robot, c'est que finalement, il va vous donner ce que vous attendez, en fait. Et il n'y aura pas vraiment de confrontation et il n'y aura pas d'aspérité. Et de cette aspérité, naissent des choses fécondes. Là, je vais citer Montaigne, qui dit que c'est bien que les gens se liment les uns aux autres, qu'ils confrontent leurs opinions en respectant une certaine éthique. C'est comme ça que les choses avancent. Donc, le robot, lui, il va être à votre service, quoi.
Voilà. Et puis il donnera la réponse qui est dans la norme. Et on sait très bien que pour avancer parfois, c'est en dehors de la norme qu'on trouve des éléments de contradiction, des éléments de réflexion et ce qui fait avancer. On va conclure peut-être sur la fin de la conversation de David Le Breton. Peut-être quelque chose à ajouter, un point qui n'aurait pas été abordé par rapport à cet essai ?
Oui, on peut. Il en parle aussi un peu rapidement, mais rappelez-vous qu'au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui s'est créé ? Eh bien, des clubs de discussion, notamment à Paris, où les philosophes pouvaient échanger, et c'est de là que sont nées les idées révolutionnaires, notamment. C'est-à-dire que conversation, c'est pas juste quelque chose d'abstrait où on discute de la pluie et du beau temps. Parlant du bavardage, encore une fois, ça peut vraiment être un lieu d'échange où, comme Jean le disait, on se confronte à des avis opposés, mais normalement, si on est capable de discuter avec des personnes qui ont un minimum de tolérance et qui savent converser, justement, sans devenir agressif au bout d'une phrase, on peut toujours en tirer quelque chose. C'est ça qui est important. Oui, Jean.
Et alors, ma conclusion, c'est sous la forme d'un hommage à Michel Blanc, dont j'ai vu le film Marche à l'ombre sur la médiathèque numérique de l'Eure. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film Marche à l'ombre, mais le duo Gérard Lanvin-Michel Blanc, donc c'est deux musiciens qui font la manche et qui à qui il arrive pas mal de mésaventures. Et en fait, tout au long du film, ils n'arrêtent pas d'être d'accord sur rien et ils discutent, ils palabrent, ils s'engueulent, ils se réconcilient. Mais au bout du compte, il y a une formidable amitié entre eux et ils seront toujours prêts à faire tout l'un pour l'autre, tout en étant jamais d'accord. Et c'est un bel hommage à la conversation, ce film. Et c'est l'occasion pour moi de dire aussi que, évidemment, l'art de la conversation, il n'est pas exclusif à une classe sociale. Il y a des ritualisations de la conversation dans les milieux populaires qui sont tout aussi riches et fécondes. Et voilà, c'est l'attitude qui importe. C'est pas c'est pas le degré de culture générale, c'est pas tout à fait vrai, parce que Le Breton dit que Internet, malheureusement, nuit beaucoup à la notion de culture générale. Donc là, Mais en tout cas, oui, ce qui importe, c'est l'attitude, c'est l'éthique en nous, quoi. Voilà.
On rappelle l'ouvrage et où on peut le retrouver.
Oui, donc La fin de la conversation, point d'interrogation, La parole dans une société spectrale de David Le Breton, édité chez Métayer. Donc normalement, on
disponible
le retrouve...
dans vos médiathèques.
Oui, disponible dans nos médiathèques. C'est nous qui les avons, on a les exemplaires sous les yeux, donc ils sont dispo et c'est dans les rayons documentaires habituellement. Ouais. Et vous pouvez nous demander.
Et nous, on l'a même acheté en plusieurs exemplaires pour le faire tourner. Voilà.
Je vous propose que nous fassions une pause musicale. Jean, c'est toi qui as choisi la première pause musicale pour des raisons évidentes. Sabine Van
Wasberg.
Wasberg, voilà, tu le dis mieux que moi.
Ouais, c'était un super moment grâce au festival Les Mois Sonores qui s'est déroulé à la fin du mois d'août. Sabine Van Wasberg, c'est une chanteuse qui a grandi à Verneuil-sur-Acre, enfin, qui a étudié le gospel, qui a aussi étudié le chant lyrique et qui aujourd'hui vit en Espagne et propose des albums jazz-pop qui sont très agréables à écouter. Et on a eu vraiment la chance de la faire revenir à Verneuil-sur-Avre grâce à ce festival et ça a été un beau moment. Elle a retrouvé son public, des fidèles, la salle était comble et ça a été un grand moment de partage. Voilà, je suis très content qu'on lui rende hommage aujourd'hui.
So please forgive me. So please don't forget.
C'était Sabine Van Wasberg.
Avec le titre Sisters.
Ouais.
Nous arrivons au moment des coups de cœur des médiathécaires. Qui se lance le premier, qui s'élance ou qui lance l'autre? Ça va être ça la grande question.
Alors je vais commencer Guillaume. Par le coup de cœur perso, je ferai le coup de cœur du fonds médiathèque après. Encore, ça va faire plaisir aux fans de super-pouvoirs, hein, vu qu'on va parler d'une série de comics qui est vraiment excellente, et ça s'appelle A Vicious Circle, une série en 3 tomes que j'avais chroniqué en début d'année dans Radio Super-Pouvoir, si vous les retrouvez. Là, le tome 3 vient juste de sortir, il est sorti il y a 4 jours, et que dire, c'est vraiment un excellent titre. Pour vous donner un peu les références, ça peut faire penser un petit peu... à l'armée des 12 singes, à Terminator, et à un épisode de la 4e dimension qui s'intitulait Soldier et qui avait été écrit par Harlan Ellison, grand Harlan Ellison, auteur notamment de I Have No Mouth, But I Must Scream, qui est vraiment un titre de science-fiction très connu. Et Harlan Ellison est aussi très connu, notamment pour sa personnalité très particulière. Pour vous vendre un peu le truc, c'est notamment un auteur qui envoyait... via la poste des colis de rats morts à ses anciens éditeurs, pour leur montrer tout le dédain qu'il avait pour eux. C'était vraiment une grande gueule, il faisait des procès à absolument tout le monde dès qu'il pensait qu'on avait un petit peu exploité ses œuvres littéraires. Quelqu'un de très spécial, je pense qu'il aurait poursuivi Madson Tomlin, scénariste de Vicious Circle, s'il avait vu ça, mais bon, il est décédé depuis quelques années, malheureusement. Au dessin, on retrouve Liber Mero, grand dessinateur de chez DC Comics, qui est notamment, comme la saison arrive, l'auteur de Batman Noël, et qui a un style assez particulier, qui peut faire penser à du photoréalisme, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et ce que j'ai aimé dans Vicious Circle, c'est justement qu'il arrive à montrer une autre facette de ses capacités, on va dire, techniques, étant donné que c'est une histoire de voyage dans le temps. On y suit Sean Tucker et Ferris, qui sont deux voyageurs temporels. On ne sait pas trop ce qu'ils font là. On comprend au début qu'ils sont censés détruire une machine. Mais ça devient anecdotique en réalité. On se rend compte qu'ils sont prisonniers d'une boucle. Et le thème de Vicious Circle, c'est la violence. Et la violence qui est montrée assez frontalement... Alors, c'est pas non plus hyper gore, mais le problème, c'est que pour voyager dans le temps, ils doivent exécuter une action un peu particulière, ils doivent tuer quelqu'un. C'est ce qui leur permet de voyager dans le temps. Donc, ça va créer tout un tas de problèmes, et l'opposition entre les deux va vraiment devenir de plus en plus exacerbée au fur et à mesure que le récit avance. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, il y a un lien très fort, parfois on peut reprocher à un scénario d'être trop verbeux ou des dessins d'être trop minimalistes, mais là, tout fait vraiment corps dans ces 3 tomes, et c'est vraiment excellent. Hein. Si vous aimez la SF, si vous aimez la BD, sachant que c'est un format un peu particulier, c'est pas un format comics, c'est une espèce de croisement entre un format à l'italienne et un format comics, c'est ce que vous lisez les auteurs, c'est... Ils n'ont pas pu l'obtenir sur cette publication aux États-Unis. Par contre, l'éditeur français Urban Comics l'a édité dans le format que eux souhaitaient. Donc, on a quand même de la chance d'avoir ce format aujourd'hui. Chaque tome coûte 16 €. C'est en 3 tomes. Là, c'est vraiment fini, fini. Et c'est quelque chose que je recommande et que vous pouvez recommander aux médiathécaires. Hein. C'est vraiment une très, très bonne série. Si vous êtes fan de SF, jetez-vous dessus. En fond, on va dire dans le fond, qu'est-ce qui vient d'arriver? On a pas mal de choses qui sont arrivées récemment, et pour faire un petit peu autre chose et parler vraiment de médiathèque. Pour rappel, médiathèque, hein, des médias. Je vais parler d'un film qui est sorti en Blu-ray DVD très récemment. C'est Alien Romulus, que j'ai pu voir donc, il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film de Fede Alvarez, réalisateur de films d'horreur, donc qui reprend la série Alien, et qui nous offre un épisode alors qui revient aux fondamentaux, ce qui fait quand même plaisir, malgré des petits problèmes qui sont dus, on va dire, au fanservice, où il y a pas mal de références à d'anciens films, certaines idées, certains plans, mais étonnamment, ça ne dérange pas tant que ça, en tout cas dans mon cas, parce que Fede Alvarez, il fait vraiment un film d'horreur. Il en profite de son Alien pour refaire un film d'horreur, c'est-à-dire dans la veine du plus dans la veine du premier film de Ridley Scott, et moins sur un film d'action ou sur du grand guignolesque, comme ça a pu être le cas, bah, par exemple, sur le Alien de Jean-Pierre Jeunet, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais qui partait quand même très loin. Là, on est sur quelque chose, on va dire, de plus à l'ancienne. Alors après, on n'aime pas. En tout cas, ça a le mérite d'être une proposition à minimum intéressante. Puis on voit qu'il y a de l'argent dedans. Les effets spéciaux sont impeccables. C'est pas comme les films Marvel récents avec leurs effets spéciaux absolument immondes. Là, on voit qu'ils n'ont pas rushé les équipes techniques ni rien. Donc, ça peut être un film sympa pour Halloween ou pour Noël si vous faites le Noël entre adultes. Montrez pas ça à des enfants. Jean ?
Oui, eh bien moi je vais vous parler d'un choix de mon collègue Fabrice à la médiathèque. Sur Facebook maintenant on va avoir une rubrique le doc du mois. C'est très malin, on participe au mois du doc et puis entre deux séances il y a un an qui se sépare, c'est le festival le mois du doc et puis entre les deux y a rien. Non, maintenant on comble ce vide avec une rubrique qui s'appelle les docs, le doc du mois. Alors celui choisi par Fabrice s'appelle Les Doléances. C'est un film réalisé par Hélène Desplanques et de quelle doléance s'agit-il? Et il s'agit des doléances qui avaient été rédigées après l'épisode des gilets jaunes. En fait, les plus de 20 000 cahiers avaient été ouverts dans les mairies et chacun était venu noircir ses carnets. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette opération n'a pas abouti à des publications et donc la réalisatrice a décidé d'aller jeter un œil elle-même sur ses cahiers de doléances et elle est allée à la rencontre aussi de personnes qui les ont noircies. C'est très intéressant, c'est toujours d'actualité, j'ai envie de dire, et donc ce sera disponible à la médiathèque au mois de décembre. Et je enchaîner avec un autre coup de cœur qui est plus personnel. Cette fois, j'aimerais rendre un petit hommage à un monsieur qui est venu un jour au mois d'avril à la médiathèque dire « j'écris des nouvelles et des poèmes. Ça fait 35 ans que je suis pas remonté lire mes œuvres et j'ai envie de m'y remettre. » Et cet homme il a maintenant 87, 88 ans, il s'appelle Raymond Jacques. Et j'ai fait l'acquisition de son recueil de nouvelles et de son recueil de poèmes. Et c'est un écorché vif, Raymond Jacques, il est très sensible à la laideur des sentiments de notre époque. Et il en rencontre dans des nouvelles quelquefois un peu crues, mais très très fortes, des nouvelles de quelques pages qui m'ont bien plu. Et en poésie, il a une verve un peu plus, c'est un petit peu plus léger comme atmosphère. Et j'aime beaucoup cet extrait que je vais vous citer. Je ne suis pas d'un seul cœur, je suis du cœur de ceux que j'aime. J'aime beaucoup. Et je voulais lui rendre hommage. Et d'ailleurs, j'attends toujours la facture parce qu'on lui a pas réglé. Donc c'est l'occasion de faire un appel du pied. Raymond, il faut qu'on te paye tes livres.
Merci Jean. Est-ce que tu veux enchaîner sur l'annonce des événements ?
Moi, je vous propose peut-être un peu de musique. On a des très courtes pauses, donc en fait, on va en profiter. Là, je vais vous laisser voir ensemble, si vous voulez, le Bad Bad Bird ou le Gangstar. En fait, vous avez sélectionné deux morceaux. Il n'y en a qu'un seul qui passera. Et là, je viens créer la zizanie en posant ça entre vous deux, parce que chacun a ramené un titre.
C'est en fait clairement... Ah bah non, Jean, il a eu le droit au premier. Je vais choisir mon truc.
Non, on peut pas faire ça.
Non.
Un petit Shifumi, non, ça va.
Non, je ne marche pas comme ça, moi, monsieur.
D'accord. Alors, ce sera Gangstar.
Ouais, tu veux que je présente rapidement ?
Eh bien, très rapidement.
Gangstar,
oui.
C'était un rappeur dans les années 90, plus grand chose aujourd'hui. Je ne sais plus s'il est encore vivant ou pas. Bref, à vérifier. Donc, je vous l'ai choisi parce que vous pouvez notamment le retrouver sur la médiathèque numérique. Oui, n'oubliez pas, vous pouvez vous y inscrire dans vos médiathèques. Et c'est une critique assez virulente du monde de la musique et du hip-hop de l'époque. Et ça me fait beaucoup rire parce que ça a plus ou moins de lien avec ce que je pense du monde de la culture aujourd'hui. Donc on va s'écouter ça, Gangstar, Peace of Mind. Real talk, serious talk. True and living with a youthful vengeance, yeah. Trust me, I'm as live as it gets. At times I feel like my back's against the wall, and if y'all ain't with me, then it's me against y'all. I stand my ground, that's what I was taught. While others stand around, I hold it down like a fort. In the midst of war, I find peace within. Run, lock your doors, don't let the beast get in. The mind is a terrible thing to waste. I show love cause it's a terrible thing to hate. Of course I want money, but I won't compromise. Y'all don't realize, think I won't bomb you guys? With the truth, nigga, stop misleading the youth, nigga. Too many wakes and funerals, that's the proof, nigga. A hood's in danger, kids need guidance. You keep lying, still the young keep dying. As I walk through the valley, I fear none. Yes, I'm the chairman, here with my nigga Premier, son. And we came to change the game. We represent the pain, that's real talk. What's your claim to fame? Rappers simply tracing flows and chasing hoes. Frontin' mad hard, that shit's amazing. Yo, producers making Tinkerbell beats for them to rhyme on. They ask if they get on the same stage that I'm on. I shit be rugged like the New York streets. Make the wrong move, stupid, then you lose your seat. Cats be buying up sound scans to beef up sales. Niggas wanna cross over, wanna be upscale. Fuck that, that ain't hip-hop, it's something else. You're better off back on the Ave doing something else. All you suckers claiming that you are thug or gangster. You disrespect the game by dry snitching, you prankster. I thank you for making more room for us. Ashes to dust. You wonder who's to trust. My sense of self and my mental health is much more powerful than any hint of wealth. A lot of niggas get cash and collect Mercedes, but neglect their ladies and forget their babies. Then the chicks turn and act like dudes, cause they reflect our life. So yo, act right, fool. And this is just a piece of my mind, a thesis of mine. I'ma make moves and I'ma leave you behind. At times I feel like my back's against the wall, and if y'all ain't with me, then it's me against y'all. I stand my ground, that's what I was taught. While others stand around, I hold it down like a fort. In the midst of war, I find peace within. Run, lock your doors, don't let the beast get in. The mind is a terrible thing to waste. I show love cause it's a terrible thing to hate. Trust me, I'm as live as it gets. My flow is like live as it gets. Trust me, I'm as live as it gets. Trust me, I'm as live. My flow is like live as it gets. Gangstar avec le morceau Peace of Mind, un choix de Guillaume de la médiathèque de Breteuil. Nous arrivons au moment des événements, des rendez-vous, en tout cas une sélection de moments à partager. Et qui sait, peut-être même pour converser. Nous vous écoutons. Est-ce que tu veux commencer, Jean? Parce que moi, j'ai un peu un catalogue.
Ah, très bien. Écoute, ouais, allez, on y va, je commence. C'est cette semaine, c'est le jeudi 21 novembre. Nous allons avoir le plaisir de recevoir une chorégraphe qui s'appelle Sophia Noblet. Et cette personne va nous proposer un spectacle de danse... sur une nouvelle de Gilles Blaise. C'est le jeudi 21 novembre à 19h. Et avant cela, à 18h, vous pouvez vous inscrire pour participer à un atelier danse et lecture. Donc, Sophia Noblet va nous montrer comment on peut vivre un texte au point de pouvoir se lancer dans quelques mouvements rythmés, syncopés. Ça va être très très bien. Et Sophia Noblet va en plus participer à des ateliers danse avec l'école Condorcet-Mérimée à partir d'un texte d'une autrice locale qui s'appelle Françoise Delair. Et ça va être très bien.
Merci Jean, moi je vais vous faire un petit peu la liste de toutes les animations à venir pour la fin du mois et le mois prochain. On commence cette semaine avec le samedi 23 novembre à 13h45, nous avons projeté dans la salle d'animation le film Wish, film de Disney sorti l'année dernière, et c'est une animation que nous faisons en coordination, en coopération avec l'association du parc avec qui nous partageons les locaux. Le 27 novembre, mercredi à 10h30, où Christelle, ici présente, qui a peur de prendre le micro, vous proposera un petit panier à histoire pour les 3-6 ans sur le thème de la différence. Également, panier à histoire, cette fois-ci, le mercredi 11 décembre, à la même heure, 10h30, donc, pour les 2-6 ans, et ce sera le panier à histoire spécial Noël. D'ailleurs, nous allons sortir le fond des livres de Noël, très bientôt, c'est-à-dire tout début décembre, la première semaine. On a aussi en ce moment une exposition temporaire à la médiathèque, l'exposition « Observons les oiseaux ». Vous pouvez venir l'admirer, c'est gratuit. Et quelque chose que vous pouvez faire en plus, c'est télécharger l'application Birdie Memory sur votre smartphone. Là, on va lui trouver une vraie utilité. Pour pouvoir écouter les chants d'oiseaux, et avoir des informations complémentaires sur les différentes espèces d'oiseaux que vous pouvez admirer à la médiathèque. Et en plus, vous pouvez admirer les canards, les poules d'eau et les hérons qui se trouvent dans le parc juste en face. Oui, je vois Jean qui rigole, mais tu sais ce que j'ai fait ? J'ai amené ma paire de jumelles pour vraiment voir les hérons, comme ça, en pause le midi, j'essaye de les observer. Quand il pleut pas. Ouais, vas-y.
Ah bah non, t'as fini ?
Non, pas tout à fait. Je t'avais dit que c'était un catalogue. Le 14 décembre, nouvelle séance cinéma, même heure, 13h45 à samedi, projection des Trois Mousquetaires Milady. Donc ceux qui ont vu le premier l'année dernière à peu près à la même période, vous pouvez venir voir le second. Ce même week-end, c'est le marché de Noël à Breteuil qui se déroulera à la salle des fêtes. Et enfin, le 21 décembre, dernière animation de l'année, nos amis de la Ludoditon seront présents pour une animation pendant l'après-midi de 14h à 17h.
Eh bien, c'est bien que tu parles de la Ludoditon parce qu'ils viennent aussi à Verneuil, c'est une super association. Ils font beaucoup de choses très 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 chouettes et donc on pense bien à, je pense bien à Simon là tout de suite là. Donc la Ludoditon, c'est un rendez-vous mensuel à la médiathèque, donc ils viendront le 7 décembre. On a aussi les rendez-vous des petits de la section jeunesse. On a un atelier d'écriture, si je me trompe pas, c'est le 14 décembre. Et l'atelier d'écriture, c'est animé par Armel Mordrel. Et ça se passe toujours formidablement bien. Et je voulais vraiment insister là-dessus. Là, samedi dernier, ils ont fait un magnifique spectacle intitulé « Lecture d'automne » et il y a une super ambiance. On est très content d'avoir la chance de compter sur des bénévoles comme ça qui nous proposent des animations. Sinon, un événement important, le vendredi 4 décembre, il y aura un blind test à la médiathèque. Ça fait maintenant, ce sera la quatrième session. Donc vendredi 4 décembre à 18h45, ce sera même un apéro blind test. Donc on vous servira à boire et à grignoter. Et le thème, ce sera la chanson française. Voilà, et je crois que... Ah oui, on a un spectacle le 21 décembre aussi, mais le matin, donc ça ne concurrencera pas Breteuil, ce sera Histoire à emporter, et l'autrice de ce spectacle est médiathécaire à Rugles, il s'agit de Sarah Loisel, donc on est bien content de l'accueillir, chers collègues.
Et pour finir, moi, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine à 12h30, mardi pour Radio Superpouvoir, une émission qui sera consacrée au génie des comics Barry Windsor Smith à l'occasion de la ressortie chez Delcourt de un très bon album Ad Astra in Africa. On va parler plein de choses, on va parler notamment de ce qu'il a fait sur Conan, sur Wolverine avec l'arme X et sur son dernier chef-d'œuvre Monsters. Ouais, Jean.
Ouais, et j'ai oublié de parler des lectures de Lire et Faire Lire le 18 décembre et 28 décembre. Encore des bénévoles, on est gâtés.
Eh bien, c'est ainsi que va s'achever ce tout premier numéro de Bibliopotine. Il en appellera forcément un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et puis, on peut se le dire d'ores et déjà. Ça risque d'être mensuel.
À la prochaine. Merci JC, merci Jean, merci Christelle.
Merci JC, merci Guillaume, merci Christelle.